Vous avez peut-être poussé un soupir de soulagement lorsque le président des États-Unis a parlé aux Nations Unies en expliquant qu'il n'allait pas attaquer tout seul l'Irak et mettre le feu aux poudres tout seul sur ce qui pourrait sembler un coup de tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cet homme a des conseillers, notamment le vice-président, mais surtout le secrétaire de la Défense, Donald Rumsfeld, et le secrétaire d'État, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, le général Colin Powell. Et ces deux conseillers sont à l'opposé. D'un côté, il y a ce qu'on appelle un faucon qui est prêt à attaquer, et de l'autre, il y a le diplomate, ce qu'on appellerait une colombe. C'est ce qu'on les appelle les faucons et les colombes, ceux qui veulent la guerre à tout prix et ceux qui veulent tout faire pour préserver la paix. Et c'est intéressant qu'en fait, on étudie un peu ces personnes, et chacun sur son bureau a une petite plaque. Je crois que c'est, si quelqu'un, un ingénieur électricien peut-être peut vérifier derrière, je crois que c'est la connexion du haut-parleur qui est un peu défaillante. Derrière, je pense, c'est le haut-parleur qui est... Merci. Ils ont tous les deux petites plaques sur leur bureau. Et il y en a un sur le bureau du faucon, de Donald Rumsfeld. Il est dit que le combat agressif pour le bien est le sport le plus noble qui existe. Il a aussi une autre plaque qui dit « On obtient davantage avec une parole aimable et un pistolet qu'avec une parole aimable seulement. » Ça, c'est sa philosophie de la vie. Et quand il a cette plaque, en fait, c'est une citation d'un grand théologien qui s'appelle Al Capone. On obtient davantage avec une parole aimable et un fusil et un pistolet qu'avec une parole aimable seulement. Par contre, sur le bureau de Colin Powell, il y a une plaque aussi qui dit « De toutes les manifestations de puissance, celle qui impressionne le plus le monde, c'est la retenue. » Donc la force qui est contenue, qui est retenue, c'est ça qui est vraiment un signe de puissance. Et en fait, on voit deux positions complètement opposées. Et pour l'instant, on a l'impression que la sagesse de la diplomatie et de faire les choses dans les formes et non pas d'aller faire le cow-boy tout seul a l'air de prévaloir. Mais on voit d'un côté le Conseil du monde qui dit « il faut foncer, il faut taper dessus ». Et puis de l'autre côté, on voit une attitude qui est plus en rapport avec la Bible, qui dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. La Bible parle beaucoup de paix et des ouvriers de paix. Dieu, c'est le plus grand, en fait, de ces ouvriers de paix. Dans Romains 5, 10, c'est un passage que vous pouvez souligner ou noter au moins. Romains 5, 10, il est dit que lorsque nous étions ennemis avec Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et que maintenant, à bien plus forte raison, étant réconciliés par la mort de son Fils, nous allons être sauvés par la vie de son Fils, par la vie de Jésus. Dieu a tout fait pour rétablir la paix avec l'homme. Le mot « paix » en langage grec, le mot utilisé dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui veut dire « joindre ». Et la guerre, en fait, c'est vrai que c'est le souci, c'est diviser, c'est séparer. Dieu parle de Jésus par le Saint-Esprit dans Ésaïe 9,6 comme étant le prince de la paix. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur ses épaules, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il est dit aussi que Jésus il a rétabli l'amitié entre les juifs et les non-juifs, entre tous les hommes. C'est lui notre paix, il est dit dans Éphésiens, qui a détruit le mur de séparation qui s'était dressé entre les croyants et les non-croyants. Dieu travaille à la paix entre les hommes et lui, et il travaille aussi à la paix entre les hommes, une paix verticale et une paix horizontale. Et Jésus a eu ces paroles bien connues que « Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui font la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». La paix, c'est une caractéristique de Dieu. Il y a la paix avec Dieu que Jésus nous a amené par son sacrifice à la croix. Il y a aussi la paix de Dieu qui vous donne cette paix du cœur qui vous permet de faire face aux épreuves tout en étant tiraillé, mais en ayant cette profonde paix intérieure. C'est la paix de Dieu dont il est question dans Philippiens. Vous vous souvenez que dans le livre des Nombres, dans le livre du Deutéronome, on avait vu que deux tribus et demie, qui avaient beaucoup de bétail, s'étaient dit, en voyant la terre promise, en arrivant en face de la terre promise, qu'en fait, le terrain où ils se trouvaient, donc à l'est du Jourdain, était parfait pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vu, par la vue, non par la foi, ils avaient vu en fait que c'était un pays qui était favorable à l'élevage. Il y avait de la verdure, il y avait de l'ombre, il y avait des cours d'eau, des ruisseaux, et ils s'étaient dit, on n'a pas besoin de chercher mieux, ça me suffit Seigneur, c'est bon, je m'arrête là. Ils en avaient parlé à Moïse, Moïse les avait un peu questionné durement en disant, mais vous allez vous arrêter là et vous n'allez pas soutenir vos frères qui doivent prendre la terre promise. Alors ces tribus, la tribu de Ruben, la tribu de Gad et une partie de la tribu de Manassé avaient dit, non, c'est bon, on va aller se battre avec vous, mais on aimerait bien rester ici, on va laisser nos familles, on va laisser des personnes pour défendre nos familles, on ira prendre la terre promise avec vous, mais on reviendra, on est bien ici. Et nous avons vu, en étudiant le livre de Josué, nous sommes arrivés à la répartition nous avons parlé d'abord des victoires, vous vous souvenez de la victoire de Jéricho, la victoire d'Aï, après les problèmes qui avaient été, la première défaite à Aï, la bataille où le soleil, à Gabaon, où le soleil s'était tenu immobile pour donner la victoire à Josué. Et nous avons vu comment tout le territoire avait été attribué aux différentes tribus. Nous avions parlé que deux hommes seulement, parmi les premiers Israélites qui avaient franchi la mer Rouge, étaient encore vivants. C'était Caleb qui avait voulu encore le territoire le plus difficile, où il y avait encore des batailles à mener, parce que c'était le territoire d'Hébron. Hébron, c'est pas facile, mais c'était aussi le territoire qui signifiait la communion avec Dieu. Et puis Josué, après que tout le monde se soit servi, lui, il avait reçu la ville de Timnath-Sérath, qui veut dire la portion abondante. Là encore, c'était pas quelque chose de facile, mais souvent c'est pas les choses les plus faciles qui sont les plus satisfaisantes dans la vie. Est-ce que vous en êtes déjà aperçu de ça? Notre tendance naturelle, c'est de dire, oh, la facilité, c'est mieux, moins de batailles. Mais souvent, ces choses qu'on a facilement, elles ne satisfont pas. Elles sont, souvent, elles n'ont pas beaucoup de valeur à nos yeux. Souvent, on s'aperçoit qu'elles n'ont pas de grande valeur. Josué, lui, il avait eu cette portion abondante, pleine de difficultés. Nous avons vu comment le Seigneur avait pourvu des villes de refuge. Et nous avons vu que c'était une illustration du refuge que nous avons en Jésus. Jésus qui est notre refuge. Nous avons vu finalement que tout le pays était au repos. Tout était conquis. Tout n'avait pas été entièrement soumis. Il y avait resté, et ça va être un problème qui va rester avec Israël jusqu'à ce jour. Il y avait des peuplades qu'ils avaient, au lieu de les supprimer, ils les avaient gardés, ils les avaient utilisés comme esclaves. Et ça, c'était comme une épine qui restera dans la vie d'Israël jusqu'à ce jour, et tout l'Ancien Testament montre comment ces premières poches d'incroyance ou d'inimitié vont les conduire à renier le Seigneur, à retomber dans un cycle où ils vont s'éloigner du Seigneur, avoir une punition par le Seigneur, revenir au Seigneur, reprendre confiance, s'éloigner à nouveau du Seigneur. Et ça, c'est dès le départ, parce qu'ils n'ont pas obéi parfaitement à la parole de Dieu. Nous avons vu le verset 45 du chapitre 21. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune n'était restée sans effet, toutes s'étaient accomplies. Nous avons vu comment ça nous rappelait que les promesses de Dieu sont plus solides que le roc. Nous pouvons construire notre vie sur ces promesses. À ces promesses, nous avons expliqué qu'il fallait ajouter non seulement la foi, il faut y croire à ces promesses, mais aussi la patience. Trop souvent, nous impatientons et nous rejetons les promesses et les bénédictions futures au lieu de croire dur comme fer à la parole du Seigneur. La paix est arrivée entre Israël et ses voisins, mais je vous rappelle que comme il y a un ennemi pour l'Église, le diable, qui est une personne réelle, Israël avait aussi un ennemi réel, et Israël, cet ennemi réel, c'est le diable qui ne veut pas qu'Israël survive. Et déjà, nous avons vu toutes les attaques qu'il y avait eu sur Israël. Pourquoi cet acharnement sur Israël? Parce que le Sauveur doit arriver par Israël. Le Sauveur devait arriver par Israël. Si le diable pouvait empêcher qu'Israël ne survive, alors il avait gagné la bataille. Dès la Genèse, il est dit que de la descendance de la femme viendra celui qui va écraser le diable. Ne pouvant pas écraser de l'extérieur, le diable a recours à cette vieille tactique, il va essayer de détruire de l'intérieur. Et ça, sans être très fin, on voit tout de suite l'analogie. L'ennemi essaye de détruire l'Église de l'extérieur. Et il y arrive très bien. On voit peu d'Église, on voit peu d'influence de l'Église. L'Église a de moins en moins de liberté pour se réunir, pour évangéliser. Cet été, nous avons pu faire des concerts, mais le conseiller de la mairie m'avait dit « aucun message religieux pendant la messe ». Et il s'était repris pendant les concerts. Mais on a le droit de chanter, de faire de la musique, de dire n'importe quoi, mais si on parle de Christ, si on parle de Dieu, alors à ce moment-là, on est suspect. Et ça, c'est les attaques de l'extérieur. Dieu merci, on a encore une liberté en France, nous pouvons nous réunir, nous avons le droit de nous constituer en association, mais si le diable, si l'ennemi n'arrive pas à nous détruire l'extérieur, à nous empêcher de le représenter de l'extérieur, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer de l'intérieur. Il va semer la zizanie, comme on dit. Et nous voyons que bien des églises sont rendues complètement inefficaces, impotentes pour l'Évangile, par des divisions de l'intérieur. Et je ne sais pas si vous avez eu la tristesse de vivre des séparations d'églises, des difficultés dans les églises, mais c'est quelque chose de terrible contre lequel il faut prier. Et Dieu merci, jusqu'ici, le Seigneur nous a préservés de telles choses. Mais nous devons être vigilants, nous devons continuer de prier pour ces choses pour que l'ennemi n'arrive pas à nous diviser de l'intérieur. Nous allons voir que le Seigneur consacre tout un chapitre, le chapitre 22 de Josué, à nous parler de ce problème. Et encore une fois, toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et nous devons être vigilants et retirer l'instruction que le Seigneur a pour nous dans ces passages qui peuvent sembler antiques et anciens, sans rapport avec notre vie aujourd'hui, mais en fait, nous allons voir que nous avons des leçons à recevoir. Chapitre 22 de Josué. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, donc ces deux tribus qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Il leur dit, vous avez observé tout ce que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix en tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez pas abandonné vos frères pendant de longs jours, et jusqu'à aujourd'hui, et vous avez observé l'ordre que l'Éternel, votre Dieu, vous avait donné. À présent, que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, prenez maintenant le chemin de vos tentes dans le pays qui vous appartient, et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné en Transjordanie, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Veillez à mettre en pratique le commandement et la loi que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, observez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent à leur tente. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en Cisjordanie à l'ouest. Ça, c'était pour l'autre partie de la tribu de Manassé. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit et leur dit, retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or et de bronze, et de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les Israélites à Silo, dans le pays de Canaan, pour aller dans le pays de Galaad, pays dont ils avaient eu possession sur l'ordre de l'Éternel par l'intermédiaire de Moïse. En fait, c'est eux qui avaient demandé la permission à Moïse et l'Éternel l'avait accepté. Quand ils furent arrivés au district de Jourdain, qui appartiennent au pays de Canaan, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un autel sur le Jourdain, un autel d'aspect grandiose. Voilà, nous voyons donc que Josué remercie ces tribus d'avoir été fidèles à leur promesse d'aider leurs frères et les 9 tribus ennemies, les autres, à conquérir le pays. Et il les remercie parce que c'est vrai qu'il y avait sans doute un grand danger que, sachant que leur famille, leurs enfants étaient aussi en danger de l'autre côté du Jourdain, il aurait été très possible qu'ils ne soient pas fidèles à leurs paroles. Josué veut les remercier. Je crois aussi, ça c'est important, d'avoir dans nos cœurs le remerciement facile. J'ai oublié de remercier Zoé pour avoir assuré la louange ce matin. Mais trop souvent, on prend pour un fait acquis l'aide que nous donnent les autres, les choses qui sont faites pour nous aider. Et d'avoir un cœur reconnaissant qui l'exprime, c'est une chose très importante. Donc, Josué leur demande de les remercier. Et puis, verset 5, il leur demande de mettre en pratique les 10 commandements, mettre en pratique le commandement et la loi que vous a ordonné Moïse. Et on peut se demander un peu pourquoi est-ce qu'il leur rappelle cela. C'est vrai qu'ils allaient se retrouver un peu isolés de l'autre côté du Jourdain, et qu'il est bon de, lorsqu'on est un peu isolé, de ne pas s'éloigner de Dieu, de ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. L'application, c'est que bien souvent, vous avez des chrétiens qui disent aujourd'hui, moi je suis sauvé, j'ai une relation formidable avec le Seigneur. Non, je ne vais pas dans une église parce que j'ai vu qu'il y avait des défauts dans toutes. J'ai été tellement déçu dans les églises que maintenant, je fais mon culte personnel le dimanche matin tout seul. Et là, qu'est-ce que je suis béni? Peut-être, mais ils ne font pas partie du corps de Christ. Ils ne s'intègrent pas. Nous y reviendrons. Nous sommes faits pour servir dans le corps de Christ. Pas seulement pour être sauvés, sinon on pourrait être enlevé directement au paradis. Dont le Seigneur nous garde ici, non pas pour nous associer, pour être des pierres vivantes de l'Église, qui est l'ensemble des rachetés, de ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Et il leur rappelle ces choses qui peuvent aller de soi. Veillez à mettre en pratique le commandement et la loi que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Et il résume, on trouve ce résumé dans bien des passages de la Bible. Aimez l'Éternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, observez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, aimez Dieu plus que toute chose, mais obéir à ses commandements et notamment le servir. Le service, c'est pas quelque chose de facultatif. Le service, c'est pas quelque chose qu'on fait quand on n'a rien d'autre à faire. Le service, ça fait partie intégrante de l'amour de Dieu. On peut pas dire qu'on aime le Seigneur et haïr son frère, comme le dit Jean dans sa première épître. Si vous dites que vous aimez Dieu mais que vous n'aimez pas vos frères, vous êtes un menteur. Josué leur recommande donc de suivre le Seigneur de tout leur cœur, d'obéir à ses commandements, de s'attacher à lui, d'être en lui. Ça aussi, le Nouveau Testament nous dit que la vie du chrétien, c'est pas moi et puis le dimanche il y a le Seigneur. La vie du chrétien, elle doit se passer en Christ. C'est en Christ que nous sommes bénis, c'est en Christ que nous sommes sauvés, c'est en Christ que Dieu le Père nous voit sans péché. Notre adresse, c'est pas 7 boulevard de Magnan, 10 avenue Fragonard, avenue des Pâquerettes, ou la Parouquine, ou quoi que ce soit. Notre adresse, la première, elle doit être Christ, en Christ. Le chrétien, son adresse, ça doit être en Christ. Et c'est de là que nous pouvons vivre cette vie de communion avec lui, cette vie d'amour, cette vie de service. Et le Seigneur, il nous le dit par l'intermédiaire de Jean, si vous m'aimez, vous allez faire mes commandements. La preuve de notre amour pour Dieu, c'est pas nos grandes déclarations, ce sont pas nos larmes, ce sont pas nos chants, ce sont pas nos sacrifices. Ce qui compte, ce qui prouve que nous aimons vraiment Dieu, c'est notre obéissance à sa parole. C'est comment nous respectons, comment nous marchons avec lui, comment nous aimons nos frères, comment nous servons Christ, comment nous servons Dieu et comment nous les servons. Alors il le rappelle cela, un peu comme je le ferai avec Tonio, quand il va partir à Marseille, je vais lui rappeler qu'il doit trouver une communion fraternelle avec une église et des amis chrétiens et pas être tout seul. J'étais content de savoir que Sébastien avait déjà pris des contacts avec différentes églises. Il n'est pas tout seul à Montpellier, soumis aux tentations du monde. Il est dans la communion du Seigneur. Et partout où vous allez, ne restez pas à l'écart, ne flottez pas. Allez tout de suite trouver quelqu'un. Prenez le temps de la réflexion pour savoir si c'est vraiment l'endroit où le Seigneur vous appelle. Mais le danger, c'est de s'installer, puis commencer à aller faire de la voile le dimanche matin, et puis finalement, on lit la Bible, et puis on s'intègre pas, et progressivement, on s'écarte du Seigneur. Josué les bénit, alors il leur dit qu'il leur donne des grandes richesses, verset 8, il va y avoir des troupeaux fort nombreux, ça tombe bien, eux qui aiment l'élevage, ils vont avoir encore plus de troupeaux, ils vont avoir des richesses, de l'or, de l'argent, du bronze, du fer. Ils demandent à ces tribus de partager ce butin avec ceux qui sont restés pour protéger leur famille, avec leurs frères. La Bible a ce principe de toujours récompenser au même titre ceux qui participent à l'œuvre de Dieu, qui travaille au royaume de Dieu, quelle que soit leur position, que ce soit l'évangéliste, que ce soit le pasteur qui va parler, qui va annoncer la parole, que ce soit la personne qui va prier fidèlement pour l'Église, que ce soit la personne qui va aider ses voisins, la récompense est la même. Et là, la récompense pour ceux qui étaient restés près des familles de l'autre côté du Jourdain, elle devait être la même que pour ceux qui avaient été fidèles et qui avaient mené le combat avec leurs frères israélites. Alors bien sûr, il y a d'autres façons d'être récompensé par le Seigneur. Le Seigneur peut nous récompenser matériellement, et il est libre, et il le fait, nous le remercions quand il le fait, mais il nous récompense de bien d'autres façons. D'abord par la joie que nous avons à le servir, par la paix de notre conscience, par le sentiment d'avoir fait le travail qu'il nous a demandé de faire. Ce sont des récompenses qui peuvent paraître pour le monde des choses un peu superflues ou un peu immatérielles et pas très importantes. En fait, pour la personne qui est proche du Seigneur, de savoir que le Seigneur vous dit « bien, fidèle serviteur », c'est la plus belle récompense qui soit. Lorsque nous comparaîtrons devant lui, Jésus disait que la récompense, ça sera de l'entendre nous dire « bien, fidèle serviteur, tu as été fidèle, entre dans la joie de ton maître ». Et les Rolls-Royce, les villas, toutes ces choses ne seront plus là. Par contre, l'amour, le sentiment d'avoir obéi, ça sera une grande richesse. Et c'est vrai que on voit que on en a déjà parlé. Quelque part, ces deux tribus ennemies, même si Moïse et l'Éternel leur avaient accordé de s'installer du côté où ils voulaient, en fait, ils n'avaient pas vraiment fait la volonté du Seigneur. Le Seigneur avait quelque chose de mieux pour eux, c'était la terre promise. Et sans doute parce qu'ils manquaient de consécration, c'était une consécration partielle. Ils voulaient servir le Seigneur, ils voulaient lui plaire, mais ils n'avaient pas complètement fait sa volonté. Et ils s'étaient dit, en fait, moi ça me suffit ce terrain-là, c'est formidable. Et ce manque de consécration, on le retrouve non seulement dans ce passage, mais on va le retrouver dans toute l'histoire d'Israël. On va voir qu'en fait, le Jourdain, si c'était une frontière naturelle qui était censée protéger Israël des attaques venant de l'Est, de la Syrie, de Babylone. Et on verra en étudiant dans le livre des Juges ou dans les Chroniques que les premiers qui étaient emmenés en esclavage, devinez qui c'était. C'était les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Ceux qui n'avaient pas cette protection voulue, prévue par le Seigneur. Et nous aussi, nous disons, je viens à l'église, je sais que Pierre dit qu'il faut venir toutes les semaines, qu'il faut s'intégrer, qu'il faut venir aux réunions de prière, qu'il faut servir, mais je viens de temps en temps, je lis la Bible une fois tous les 36, j'ai la paix, je suis sauvé. Quelque part, il ne va pas y avoir cette plénitude de joie que le Seigneur a pour vous et qu'il a pourvu par son Fils. Et là, dès le départ, on voit que ils n'ont pas la conscience tranquille, ils ont un problème. Quand ils sont arrivés, ils éprouvent le besoin de construire un grand autel, quelque chose qui va frapper la vue, quelque chose qui va frapper de l'extérieur. On se demande un peu pourquoi. Nous allons voir un peu plus loin leur explication. Et la question, c'est comment vont réagir les autres tribus, et on le voit à partir du verset 12, où nous allons voir comment un autre problème dans l'Église, c'est le problème des rumeurs. Le problème des jugements mal fondés. Et c'est le problème des communications, le problème de la communication. Combien de fois nous avons des problèmes dans l'Église ou dans nos familles, même entre mari et femme, parce que nous ne communiquons pas assez. Nous communiquons partiellement. Et il y a une illustration de ce problème de communication. C'est déjà difficile entre deux, mais s'il y a des intermédiaires, alors ça peut devenir terrible. C'est l'histoire d'un... Ça se passe dans une caserne. Il y a un message qui est transmis du colonel au commandant. Et le message oral dit « Demain soir, vers 20h, la comète de Halley, cette comète qui passe dans le ciel tous les 75 ans, sera visible dans notre région. Un événement qui se produit qu'une fois tous les 75 ans, que les soldats se présentent dans la cour de la caserne habillés en survêtements, où je leur expliquerai ce rare phénomène. En cas de pluie, nous ne pourrions rien voir. Rassemblez donc les hommes dans le théâtre de la caserne où je leur montrerai des films sur le sujet. Ça, c'est le message du colonel au commandant. Le commandant répercute cette information au capitaine en disant « Sur ordre du colonel, demain soir à 20h, la comète de Halley passera au-dessus de la cour de la caserne. En cas de pluie, éliminez les hommes en survêtement, puis rendez-vous en marchant au pas jusqu'au théâtre où ce rare phénomène se produira, quelque chose qui n'arrive qu'une fois tous les 75 ans. » Le capitaine transmet ça au lieutenant, ça devient « Sur ordre du colonel en survêtement à 20h demain soir, la phénoménale comète de Halley apparaîtra dans le théâtre. En cas de pluie dans la cour de la caserne, le colonel donnera un autre ordre, quelque chose qui ne se produit qu'une fois tous les 75 ans. » Le lieutenant au sergent « Demain à 20h, le colonel habillé en survêtement apparaîtra au théâtre avec la comète de Halley, chose qui arrive une fois tous les 75 ans. En cas de pluie, le colonel donnera l'ordre à la comète de passer dans le théâtre. » Finalement, les soldats reçoivent l'ordre par le sergent. Il pleuvra demain soir à 20h, au moment où le phénoménal général Halley, qui a 75 ans, conduira sa voiture, la comète, habillée en survêtement, avec le colonel comme passager dans la cour de la caserne. Alors, c'est bien sûr. On va voir que c'est ce qui se passe dans cette situation. À partir du verset 11, les Israélites apprirent que l'on disait « Voici que les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé ont bâti cet autel juste en face du pays de Canaan, des districts du Jourdain, du côté des Israélites. Lorsque les Israélites eurent appris cela, toute la communauté des Israélites s'assembla à Silo pour monter contre eux en ordre de bataille. » Donc, apprenant cela par oui-dire, les autres tribus sont prêtes à aller faire la guerre contre leurs frères avec qui ils viennent de combattre pendant au moins 7 ans, contre toutes les peuplades qui habitaient la terre promise. Pourquoi cette violente réaction? Parce que Dieu avait décidé que Silo serait le seul lieu d'adoration. Les hommes devaient se rendre trois fois par an, tous les hommes d'Israël devaient se rendre en un lieu central. Pour commencer Silo, on verra que par la suite ça deviendra Jérusalem, pour trois fêtes. Il y avait la fête des pains sans levain, qu'on connaît sous la fête de la Pâque, la fête des prémices, c'est-à-dire des premiers fruits, qu'on appelle souvent la fête de la Pentecôte, qui arrivait 50 jours après la fête de la Pâque, et puis la fête des tabernacles, qui était la fête de la récolte. Et il était bien précisé qu'il ne fallait surtout pas offrir d'holocauste, donc de sacrifice, dans tous les lieux qu'il trouvait, mais il devait offrir les sacrifices au lieu prescrit par Dieu. Et en fait, les tribus voyaient que maintenant, les deux tribus ennemies allaient se construire un autel pour offrir des sacrifices, alors que c'était formellement interdit par la loi de Dieu. Et encore une fois, on en a parlé en étudiant le Deutéronome, ces prescriptions peuvent nous paraître un peu étroites de la part de Dieu, mais pourquoi pas offrir un sacrifice ici, en offrir un autre. Ça nous rappelle que on n'adore pas Dieu comme on veut. Dieu a prescrit la façon dont on doit l'adorer, on doit l'adorer en esprit, en vérité, et toute la Bible nous apprend à comment nous devons l'adorer. C'est pour ça que nous aimons étudier toute la parole de Dieu, non seulement parce que nous y recevons du conseil, mais nous apprenons comment Dieu veut qu'on l'adore. Et aller faire son petit autel et offrir des sacrifices, c'était sacrilège, c'était un sacrilège. Donc, les tribus à l'ouest considèrent cette construction comme un acte de rébellion très, très évident et contre lequel il n'y a qu'une solution, c'est la guerre. Et bien sûr, on imagine que le diable qui veut détruire Israël se réjouit. Il a trouvé un prétexte. Et verset 13 nous dit que les Israélites envoyèrent auprès des Rubénites, des Gadites et la demi-tribu de Manassé au pays de Galaad, Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par famille pour chacune des tribus d'Israël. Tous étaient chefs de leur famille parmi les milliers d'Israël. au moins une sage réaction, ils envoient une délégation présidée par Phinéas, qui était en fait le fils d'Éléazar, le petit-fils d'Aaron, le grand prêtre, le premier grand prêtre d'Israël. Et au moins, il va y avoir un dialogue, une communication. Et ça, ça devrait être aussi pour nous une instruction. Ne pas recevoir des critiques ou des faits non vérifiés comme étant la vérité, et au moins aller parler à ceux qui semblent avoir commis quelque chose d'offensant ou digne de reproche. Plutôt que d'entretenir des soupçons, d'entretenir des rancœurs, combien de fois lorsqu'on va carrément voir les gens, on s'aperçoit que c'était simplement un malentendu. Et c'est ce qui va se passer ici. La délégation se rend, verset 15, auprès des deux tribus ennemies, et il leur parle, verset 16. Alors, il leur donne leur point de vue. Ils sont convaincus, et c'est plutôt un ultimatum. C'est un peu comme Bush qui dit « Je vais envahir l'Irak parce qu'il y a des armes de destruction massive sans qu'on ait des preuves pour l'instant. » Il dit « Voici ce qu'a dit toute la communauté de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en vous bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel ? Le crime de Péor est-il peu de chose pour nous alors que nous ne sommes pas encore purifiés jusqu'à ce jour et qu'un fléau s'est déchaîné dans la communauté de l'Éternel ? Et vous, vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre toute la communauté d'Israël. Or donc, si le pays qui est votre propriété est impur, passez donc dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où se trouve la demeure de l'Éternel, ayez une propriété au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, ne vous insurgez pas contre nous en vous bâtissant un autel outre l'autel de l'Éternel, notre Dieu. Lorsqu'Akan, fils de Zéra, commit une infidélité au sujet de l'interdit, ce fut contre toute la communauté d'Israël que l'indignation de l'Éternel éclata. Or, il ne fut pas le seul à périr pour son crime. » Et donc, Phinéas fait allusion à deux épisodes de l'histoire d'Israël. Le crime de Péor, nous avions vu cela dans l'étude du livre des Nombres. Vous vous souvenez, il y avait ce roi Balak qui demandait à un devin, Balaam, de maudire Israël. Et chaque fois que Balaam essayait de maudire Israël, c'était des paroles de bénédiction qui sortaient de sa bouche aux grandes dames de Balak le roi, qui voulait offrir de l'argent à Balaam s'il arrivait à maudire Israël. Et finalement, Balaam a recours à un stratagème, puisqu'il n'arrive pas à maudire Israël, il va les faire tomber dans un piège, il va les faire tomber dans l'idolâtrie et l'immoralité en utilisant des jeunes filles des tribus de Moab pour séduire les jeunes soldats, les jeunes hommes d'Israël. Un stratagème qui malheureusement marche à tous les coups. L'immoralité a une telle puissance sur nous. Là encore, nous devons demander la protection du Seigneur parce que nous voyons avec ces Israélites, ils sont tombés dans le panneau en plein. Et c'est Phinéas lui-même qui a été le premier à punir un de ces jeunes qui s'était rendu coupable d'adultère avec une jeune païenne qui avait transpercé ces deux jeunes gens. Et la suite de ça, il y avait 24 000 morts parmi ces gens qui s'étaient livrés à l'immoralité, à l'idolâtrie. Parce que bien sûr, l'immoralité, ça conduisait à adopter les coutumes de ces païens et notamment à adorer des idoles qui étaient des faux-semblants du vrai Dieu d'Israël. Il rappelle aussi l'épisode d'Akan, cet Israélite qui avait caché une partie du butin qui devait être consacré à l'Éternel, qui devait être détruit pour l'Éternel. Et là encore, il insiste sur le fait que c'est pas seulement lui qui a été puni, et il dit que si ces gens commettent cet acte de désobéissance, de construire un autre autel pour y offrir des sacrifices, c'est toute la communauté qui va souffrir. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est vrai pour nous, ce qui est vrai pour l'Église, qui est vrai au sein de l'Église, qui est vrai dans toute la communauté des Églises. C'est que lorsqu'il y a le péché, lorsqu'il y a la désobéissance d'une seule personne, tout le monde s'en ressent. Les gens qui l'entourent, peut-être que les gens n'en sont pas conscients, mais et s'il y a le péché dans l'Église, s'il y a des fausses doctrines qui se propagent parce que certains ne sont pas fidèles à la parole de Dieu, à ce moment-là, c'est toute la communauté chrétienne qui peut être traitée de secte, qui peut être... c'est pas un signe. L'ennemi et le monde vont nous traiter de secte et vont nous s'opposer à nous, mais qui peut faire beaucoup de tort à l'Église, au corps entier de Christ. Et là aussi, c'est quelque chose pour lequel nous devons prier, que le témoignage de notre Église, mais le témoignage des autres Églises aussi, soit fidèle à ce que Dieu veut pour son Église. Et c'est vrai que les sectes nous font beaucoup de tort lorsqu'on va, en 2003, on va faire une campagne, tous les évangéliques, les protestants et même certains catholiques s'associeront, pardon, à ce grand mouvement 2003, année de la Bible. Mais vous pouvez être sûr que les témoins de Jéhovah vont dire, la Bible dont vous avez entendu parler dans les médias, la voici, et on va vous expliquer, venez, on va vous l'expliquer, venez dans la salle du temple. Et souvent, on parle aux gens, ils nous disent, ah, vous êtes des témoins de Jéhovah, non merci. Parce qu'il y a une mauvaise représentation de la vérité, et c'est tout le corps de Christ qui en pâtit. Et là, de la même façon, cette délégation leur dit, c'est presque en quelque sorte, si vous voulez faire des bêtises, ça va, mais c'est tout le monde, c'est toute la communauté qui va en souffrir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui doit nous entrer dans notre conscience lorsque nous sommes tentés de faire quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Nous serons bien sûr jugés directement, mais ça va retomber sur l'Église en entier. Verset 21, les deux tribus répondent à cette délégation, et là ils sont complètement étonnés. Verset 22, ils invoquent même Dieu. Dieu l'Éternel, c'est lui qui sait, et c'est Israël qui le saura. Si c'est par révolte et par infidélité envers l'Éternel, ne nous sauve pas en ce jour. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, et si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices de communion, que l'Éternel en demande compte. Donc ils disent, si c'était notre intention d'avoir un autel pour faire des sacrifices, et ils citent les différents types d'offrandes qui étaient possibles, les holocaustes, les sacrifices de consécration totale, des offrandes, des sacrifices de communion entre l'homme et Dieu. Et ils disent, si c'est le cas, alors que Dieu nous punisse, qu'il nous en demande des comptes, mais ils répondent, verset 24, certes non, nous avons fait cela parce que nous étions inquiets à la pensée que demain vos fils nous disent à nos fils, qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ? L'Éternel a mis le Jourdain pour frontière entre nous et vous, Rubénite et Gadite. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et à cause de vos fils, nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. Alors nous nous sommes dit, mettons-nous à l'œuvre pour bâtir un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, ainsi qu'entre nos descendants après nous, que nous pratiquons le culte de l'Éternel devant sa face par nos holocaustes, par nos victimes et nos sacrifices de communion, afin que vos fils ne disent pas demain à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent demain ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous. Loin de nous de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour des holocaustes, pour des offrandes et pour des sacrifices, en plus de l'autel de l'Éternel, notre Dieu qui est devant sa demeure. Et donc ils s'expliquent, ils disent, c'était jamais pour faire des sacrifices. Si c'était le cas, nous serions les premiers à mériter la sentence de Dieu, et que Dieu nous retire son salut, qu'il nous demande des comptes. Mais en fait, si nous l'avons fait, et c'est là qu'on voit que leur manque de consécration totale conduit à l'inquiétude. S'ils étaient restés avec leurs 12 frères et les 12 autres tribus de frères en terre promise, ils n'auraient pas eu ce problème. Mais ils s'étaient volontairement séparés parce qu'ils avaient vu, au lieu de voir par la foi, ils avaient vu par leurs yeux. Ce territoire leur semblait parfait, pas la peine d'aller plus loin. On voit que quelque part, ils n'avaient pas la conscience tranquille, ils n'avaient pas la paix dans leur cœur. Ils se demandaient, peut-être qu'un jour, nos descendants, ils vont être séparés des autres frères, et on va dire, peut-être qu'ils seront, il y aura l'inimitié entre eux, ils diront, mais vous, on ne vous connaît pas, vous ne faites pas partie du peuple de Dieu, vous n'avez point part à l'Éternel, vous êtes en dehors de la terre promise. Et donc, encore une fois, on voit que la consécration partielle ne donne pas la plénitude. On peut sauver les apparences, on peut se justifier, on peut raisonner, mais les inquiétudes vont surgir, on va se dire, oui, mais si jamais ceci arrive, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous voulez être sûr de votre salut, suivez fort après le Seigneur. Non seulement vous entendrez la parole qui vous assurera de son salut, et vous connaîtrez cette paix du cœur, cette conscience tranquille. Là, ils étaient inquiets et se disaient peut-être que nos enfants, ça va être un problème pour eux. Et donc, ils avaient eu cette idée de dire, eh ben, on va faire un temple semblable à celui qui est à Silo. Et comme ça, ils pourront dire, ben si, vous voyez, on sait ce que c'est, on a part à l'Éternel, on appartient à l'Éternel parce qu'on a les formes extérieures. Quelque part. Et là aussi, c'est un danger qui a touché l'Église, c'est qu'on peut se réunir le dimanche, on peut avoir les formes extérieures de religion, mais pas de réalité intérieure. Dieu, lui, regarde au cœur, il regarde à l'intérieur. L'homme, lui, il voit que l'extérieur. Donc, lui, il croit des fois tromper Dieu en s'attachant à l'extérieur. Que ce soit un avertissement pour nous de cultiver cette relation personnelle, intime et réelle, et non pas de donner des aspects, des faux-semblants. Et ce genre de propos, peut-être ça ne vous touche pas, mais ça me touche moi-même. Moi qui vous annonce la parole de Dieu jour après jour, est-ce que moi-même, de l'intérieur, est-ce que je suis honnête avec moi-même? Est-ce que je sers le Seigneur de tout mon cœur? Ou est-ce que c'est pris par le mouvement, par l'inertie des choses que je suis là? Ou est-ce que ma relation avec le Seigneur, elle est toujours mon premier amour? Je sais que vous n'avez pas ce problème, mais je vous partage le mien. Ou peut-être vous l'avez aussi. Et donc, verset 30, lorsque le sacrificateur Phinéas, les princes de la communauté, donc toute la délégation, une fois qu'ils ont entendu ces paroles, il est dit qu'ils se tinrent pour satisfaits. Alors là, une fois qu'on leur a expliqué les choses, ça y est, il n'y a plus de bagarre. Il n'y a plus de guerre, ils étaient prêts à les tuer, et maintenant ils sont contents. Phinéas leur dit, nous savons aujourd'hui, verset 31, que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez pas commis cette infidélité contre l'Éternel, vous avez ainsi délivré les Israélites de la main de l'Éternel. Donc il est satisfait, ils ne vont pas tous être punis parce que les autres ont commis un péché, et ils reviennent, donc à l'ouest du Jourdain, là où se trouvent les autres tribus, 9 tribus ennemies, et il leur explique ce que les deux tribus ennemies leur ont donné comme explication. Et verset 33, les Israélites se tinrent pour satisfaits de ce rapport. Les Israélites bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en ordre de bataille pour ravager le pays qu'abattaient les Rubénites et les Gadites. Donc ils étaient prêts à tout mettre sans dessus dessous, et puis là les explications leur conviennent. Il n'y a plus de sujet de discorde. On peut quand même souligner au passage qu'ils étaient prêts, ces 9 tribus ennemies, à offrir du territoire à ces 2 tribus ennemies. Ils leur avaient dit, écoutez, si votre territoire est impur, venez chez nous, on vous fera de la place. Mais cet épisode, je crois qu'il occupe tant de place dans la parole de Dieu, un chapitre entier de la parole de Dieu qui nous met en garde contre les malentendus. Et souvent, l'information est vraie, c'est les implications de cette information qui sont fausses. Il était vrai qu'ils avaient construit un autel, mais l'implication, c'était pas pour se détourner de Dieu et être infidèle, ou offrir des sacrifices peut-être à d'autres dieux. Non, c'était parce qu'ils avaient un souci pour leurs enfants, qu'il y ait toujours ce lien entre ces tribus d'un côté du Jourdain et de l'autre côté. Et c'est vrai que Satan utilise le manque de communication, Satan utilise les malentendus pour attaquer l'Église. Il y a même un auteur que j'aime bien qui a écrit un livre sur Josué, Graham Scroggie, qui dit que si toutes les incompréhensions, les fausses informations étaient corrigées, l'Église chrétienne serait dans un état de réveil. Alors, il y a des malentendus au sein d'une communauté, mais encore combien plus de malentendus entre les différentes communautés. On a entendu dire qu'il se passait telle chose bizarre dans telle église. On ne sait pas si c'était le fait d'une personne qui était arrivée là pour la première fois qui avait fait quelque chose de bizarre. On est tellement rapide, tellement prêt à condamner, et je parle pour moi, à condamner toute l'église, condamner le pasteur, oui, j'ai entendu dire, donc. Et vraiment, nous devons nous reprendre devant le Seigneur, nous devons demander pardon au Seigneur. Et ce même auteur dit, comment se fait-il que nous sommes toujours prêts à écouter les ragots, la médisance, les diffamations qui font beaucoup de tort aux autres? Je crois qu'en fait, c'est parce que nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes. Nous n'avons pas la conscience tranquille et ça nous rassure de savoir qu'il se passe des choses terribles ailleurs. En pointant le doigt vers ce qui ne va pas, on s'érige en juge, on s'érige supérieur, on se met dans une position de supérieur vis-à-vis de tel ou tel groupe de personnes ou de personnes. Mais quelqu'un a dit, lorsqu'on pointe un doigt vers quelqu'un, il y en a trois autres au moins qui pointent vers nous et un autre qui pointe vers Dieu. Et une chose aussi, c'est que on est tout de suite prêt à juger des motivations des gens. On les voit agir et on en conclut tout de suite le pire. J'en conclus souvent le pire. Je ne suis pas là à dire non, peut-être qu'il y a une explication, peut-être que c'est. Allons leur parler. Non, je ferme mon cœur. C'est ma chair. C'est pas marcher selon l'Esprit de Dieu. Et on juge sans poser de questions, sans s'informer réellement, en tirant des conclusions hâtives. Et on est prêt à faire des jugements basés sur des rumeurs, des suggestions. Et ça, c'est totalement à l'opposé de l'instruction de la parole de Dieu. Vous savez que dans Matthieu, Jésus nous expliquait comment on devait exercer la discipline dans l'Église. Il fallait deux ou trois témoins. Si un frère avait péché, il fallait aller le reprendre seul. S'il n'était pas réceptif, on allait le voir avec un autre frère. Il y a toute une procédure d'information qui doit protéger l'unité du corps de Christ. Et Louis Palao faisait remarquer qu'il était tellement étonné de la vitesse à laquelle un chrétien pouvait changer d'attitude complètement et se conduire comme une personne charnelle. On peut avoir été très proches les uns des autres, s'être aimé, avoir servi ensemble, et du jour au lendemain, pour une bêtise sans fondement, on peut devenir sarcastique, on peut devenir dur, comme s'il n'y avait jamais eu d'amour ou de communion. Et là, encore une fois, je crois que nous devons chacun garder notre chair, notre nature de pécheur. Nous devons appliquer la parole de Dieu, les préceptes. On ne juge pas hâtivement, on s'informe, on se renseigne. Et surtout, on prie pour que le Seigneur nous protège de ce genre de division que le diable veut absolument voir arriver. Et l'apôtre Paul dans Éphésiens, on va terminer avec quelques passages dans Éphésiens. Il y a un danger de se vouloir indépendant, de se croire supérieur aux autres, parce que nous le voulions ou non, l'Église c'est un corps, et nous ne sommes que des membres. La tête c'est Christ. Si je me coupe le doigt, mon doigt ne sera plus jamais utile, il n'y a que quelques minutes pour le rattacher à ma main. Il faut un chirurgien habile. Et de la même façon, lorsqu'il y a une blessure dans le corps de Christ, c'est Christ qui peut restaurer. Mais il ne faut pas que ça traîne. Il faut être humble. Et dans Éphésiens 4, Paul rappelle qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessous de tout, parmi tous et en tous. Verset 12, il dit que... On va passer plutôt au verset 15. On peut dire la vérité, mais il faut la dire avec amour. Est-ce qu'on dit la vérité pour se mettre en avant, pour se montrer supérieur à l'autre, ou est-ce qu'on la dit avec amour? Si on le fait, alors on peut tous croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Verset 25. Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Nous devons toujours avoir beaucoup de respect, de désir d'annoncer la vérité, mais nous ne devons pas la dire avec d'autres motifs que le motif de l'amour. Et si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un parce que son attitude vous semble contraire à celle que voudrait Christ, priez d'abord, demandez à Christ de vous montrer les motivations de votre cœur. Est-ce que je le fais pour le restaurer ou est-ce que je le fais pour me mettre en valeur? Finalement, c'est dans Galates 6:1, frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, c'est-à-dire qui marchez selon l'esprit, redressez-le avec un esprit de douceur. Et puis il ajoute cette parole, prends garde à toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Toujours l'humilité dans cette approche. Recherchez la paix, l'unité. Il n'est pas question de sacrifier, d'accepter les compromis, les faux enseignements, les mensonges doctrinaux, mais toujours avoir l'attitude en nous qui était l'attitude de Christ, celle de l'amour, de la communication. Qui mieux que Christ a communiqué avec l'homme? Dieu a tout fait pour communiquer avec nous et il attend que nous aussi nous soyons en communion les uns avec les autres, que nous évitions les malentendus pour sa gloire. Amen. Prions. Seigneur, c'est vrai, nous te remercions parce que je crois que personnellement, et je suis sûr que chacun ici peut penser à des épisodes dans leur vie où nous avons jugé hâtivement, nous avons agi sur des malentendus qui ont semé la discorde, que ce soit dans notre couple, dans notre famille, au travail, avec des étudiants, dans l'église, avec des groupes, Seigneur. Tu vois combien il est facile de juger, combien notre vieille nature est prête à reprendre le dessus dans ce domaine. Et Seigneur, nous te demandons par ta grâce de pouvoir être ces instruments de paix que tu recherches. Donne-nous de ne pas juger hâtivement, mais de rechercher ta sagesse et de rechercher avec amour le bien-être de l'autre, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Donne-nous de l'appliquer cette semaine. Et je sais que les occasions ne vont pas manquer d'éliminer des malentendus. Seigneur, ma prière, c'est vraiment que grâce à ce rappel de ta parole ce matin, des problèmes puissent être évités la semaine prochaine et dans les semaines et les mois à venir. Nous te remettons encore l'unité de ton corps à Nice. Merci pour nos frères qui se réunissent ce matin en esprit et en vérité, pour t'adorer en esprit et en vérité. Encourage-les, Seigneur, bénis-les. Bénis aussi cette assemblée, Seigneur. Donne-nous la sagesse, l'amour les uns pour les autres, pour continuer dans tes voies. Nous te remercions de ta fidélité, de ton amour, de ta parole, Seigneur. Par le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il... Je prie vraiment qu'on puisse tous mettre en application ces instructions ce matin. Si vous désirez voir le local en bas, j'y serai sans doute dans quelques minutes, mais on a la joie de pouvoir reprendre notre habitude de pause café, thé, rafraîchissement après le culte. Donc je vous invite à rester avec nous et à communiquer, à parler, à vous vivre la communion fraternelle. Amen.